Avant de commencer à cette prédication, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore de cette occasion que tu nous donnes encore d'être devant toi, devant ta parole, devant ton Église, Seigneur. Merci encore pour ce privilège que j'ai de pouvoir apporter cette parole, cette bonne nouvelle encore. Et Seigneur, tu vois ce passage qu'on connaît tous, Seigneur, que peut-être on a raconté à nos enfants ou qu'on a appris à l'école du dimanche. Et je te prie, Seigneur, que ce passage de Exode 32 puisse nous éclairer, Seigneur, d'une nouvelle manière, Seigneur. Que vraiment ce passage puisse avoir un impact dans notre vie aujourd'hui, Seigneur. Que lorsque nous allons repartir, Seigneur, nous puissions être différents de la manière dont nous sommes venus aujourd'hui, Seigneur. Merci encore parce que tu gardes ta parole, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de nous, Seigneur. Je te prie tout cela au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. C'est pour moi un honneur de pouvoir apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Aaron et Moïse, deux leaders bien différents ». La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez de la prédication, Pasteur Philippe a commencé par cette image en parlant de Joe Biden, qui venait d'être élu. Et derrière Joe Biden, il y a aussi une vice-présidente qui s'appelle Kamala Harris, qui fait que si jamais Joe Biden n'est plus présent, eh bien c'est elle qui va le remplacer. Quel est le rôle du vice-président ? Eh bien, tant que le président est présent, le vice-président doit se déplacer à l'étranger, en particulier quand le président n'est pas prêt à s'engager dans un accord avec un autre pays, mais qu'il veut y envoyer un émissaire qui soit haut placé. Un autre de ses rôles, c'est de trancher en cas d'égalité des voix au Sénat. Une autre chose, c'est qu'il remplace le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses responsabilités. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans le texte d'aujourd'hui, de Exode 32. Nous avons Moïse, donc là avec les deux tables de la loi, et il est parti. Et Aaron a dû le remplacer auprès des Israélites. Et nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'il s'en est sorti, et plutôt mal à vrai dire. Mais avant cela, je rappelle peut-être pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, un petit rappel du contexte de Ésode. Donc Exode, le livre d'Exode, est divisé en trois parties. D'abord, première partie, chapitre 1 à 19, on va parler du peuple de Dieu. On va parler des 10 fléaux d'Égypte, la délivrance du peuple d'Égypte, et on avait vu le parallèle avec la délivrance des chrétiens par rapport au péché, par rapport à Satan, grâce à Jésus. Ensuite, on voit dans Exode 20, chapitre 20 à 24, la loi de Dieu, et notamment les 10 commandements, mais pas seulement les 10 commandements, aussi d'autres commandements. Et enfin, Exode 25 à 40, nous voyons la présence de Dieu et notamment tout ce qu'on appelle la construction du tabernacle qui était là pour montrer que Dieu était présent parmi son peuple. Donc c'est pas pour rien en fait qu'on a ces... Des fois on lit Exode et on se dit « Waouh, c'est super intéressant au début parce que c'est très narratif. » Puis « Ah, la description du tabernacle, c'est un peu... » En fait non, c'est pas pour rien. Dieu a permis à Moïse d'écrire d'abord sur le peuple de Dieu, ensuite sur la loi de Dieu, et enfin sur la présence de Dieu. Et avant ce passage d'aujourd'hui qu'on vient de lire, eh bien on sait que dans Exode 24, versets 15 à 18, Moïse est monté sur la montagne et qu'il y est resté 46 jours. En fait, il est resté 6 jours et puis après on nous dit qu'il est resté 40 jours et 40 nuits pour recevoir les instructions de Dieu qui concernaient justement le tabernacle. Et dans l'Exode 31, verset 18, donc juste avant, l'Éternel a fini de parler à Moïse et lui donne ces deux tables de la loi qu'il a écrites. Et j'aurais pu faire un message en repartant un peu de manière chronologique, comme on a l'habitude, hein, le veau d'or, etc. Mais ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est d'agir différemment. De dire, tiens, d'un côté, on a Aaron, qui est un leader, et de l'autre côté, on a Moïse, et on va voir quelles sont un peu leurs différences. Mais avant cela, peut-être que Michael a lu un peu rapidement le passage, ou en tout cas peut-être qu'on n'avait pas le temps de s'immerger dedans. Donc je vous propose de nous replonger dans le passage d'aujourd'hui, de manière chronologique, assez rapidement, et puis après on va attaquer le plan qui sera en trois parties, parce que vous savez bien que j'aime les plans en trois parties, voilà, pour ceux qui me connaissent. Donc d'abord, on a cet épisode du veau d'or. Donc Exode 32, versets 1 à 6. Donc le peuple, il voit que Moïse tarde à descendre de la montagne et dit, il se rassemble tout autour d'Aaron et lui dit, bah, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, parce que Moïse, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu, donc fais-nous des dieux. Donc Aaron, il dit, bah, enlevez tout ce qui est en or de chez vous et donnez-les moi. Et puis je vais les jeter dans le feu, dans un moule, voilà, et il va en sortir, en fait, il en fait un veau, donc un veau d'or. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ok, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pas seulement il dit ça, il dit aussi, bah, on va aussi construire un autel, tant qu'à faire, et en plus, on va faire une fête en son honneur, en l'honneur de l'Éternel. Donc voilà, ils font cette fête, ils font des sacrifices, des holocaustes, des sacrifices de communion, ils mangent, ils boivent, ils se lèvent pour s'amuser. Voilà, ça, c'est le verset 1 à 6. Ensuite, verset 7 à 14, l'Éternel, bien sûr, est au courant de tout ce qui se passe. Moïse, lui, il n'est pas au courant. Donc, ce qu'il fait Dieu, il prévient Moïse, il dit, attention Moïse, le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, il s'est corrompu. Et ils se sont écartés de la voie que je leur ai prescrite. Donc, laisse-moi faire et ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître. Tandis que je ferai de toi une grande nation. Et là, on a Moïse qui interpelle Dieu quelque part. Il dit, mais attends Seigneur, pourquoi est-ce que tu détruirais ton peuple? Parce que les ennemis, les Égyptiens, ils vont dire, mais c'est pour les faire mourir dans la montagne qui les a fait sortir. Et en plus, tu as fait cette promesse aux patriarches, à Abraham, Isaac, Jacob. Tu as tous fait cette promesse, comme quoi il y aurait un peuple qui va descendre d'eux et qui allait occuper ce pays. Et donc, face à cette intercession, l'Éternel renonce alors au mal qu'il a déclaré vouloir faire à son peuple. Donc Moïse descend de la montagne et Josué lui dit, bah, ah tiens, on entend des cris, on dirait des cris de guerre. Et Moïse lui dit, non, pas du tout, c'est pas des cris de guerre, c'est en fait, ils sont en train de faire la fête. Et là, Moïse, il s'approche du camp, il voit le veau et les danses. Et là, il est vraiment fâché, il prend les tables de la loi, il les casse. Alors que les tables de la loi qui ont été écrites par la main de Dieu, il les casse. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il prend le veau d'or, il le brûle au feu, il le réduit en poudre, et il verse cette poudre à la surface de l'eau et la fait boire aux Israélites. La colère de Dieu, la colère de Moïse, pardon, et la destruction du veau d'or. Ensuite, versets 21 à 24, Moïse fait des reproches à Aaron. Que t'as fait ce peuple pour que tu te rendes coupable d'un si grand péché? Donc qu'est-ce que tu as fait? C'est pas possible. Pourquoi tu as fait ça? Aaron qui dit, ne t'énerve pas, tu sais toi-même très bien que ce peuple est pécheur et que, ben voilà, ils m'ont dit de faire des dieux qui marchent devant nous parce qu'on savait pas ce que tu étais devenu. Du coup, je leur ai dit, bah, donnez-moi l'or, j'ai jeté l'or et voilà, il est sorti un veau. Je sais pas comment, mais il y a eu un veau comme ça qui est sorti de ça. Ensuite, on a Moïse qui voit que le peuple est quand même bien dans la débauche, dans le désordre, et en plus que tous les ennemis le voient. Et là, verset 26, il appelle tous ceux qui sont pour l'Éternel, et on voit que ce sont les Lévites qui vont se lever, le peuple des Lévites, et qui vont exécuter 3000 hommes qui vont mourir ce jour-là. Enfin, versets 30 à 35, nouvelle intercession de Moïse, encore une fois, pour le pardon du peuple, cette fois-ci. Et Moïse dit, bah, enlève-moi la vie parce que bah, je préfère mourir moi-même que mon peuple qui meurt, un peu comme ce que dit Paul dans Romains, qui dit que je préfère être même anathème pour que les Juifs soient sauvés. Et Dieu lui dit, non, chacun est responsable de son propre péché. Voilà. Et conduis ce peuple, donc il fait quand même grâce, et mon ange marchera devant toi. Mais le jour où j'interviendrai, verset 34, je les punirai de leurs péchés. Donc ça, c'est l'histoire qu'on connaît tous, qu'on nous a racontée. Je pense que maintenant, tout le monde est un peu au clair sur cette histoire. Et pour aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est nous concentrer sur trois parties. Première partie, on va d'abord voir que Aaron a été propulsé leader et qu'il tombe dans l'idolâtrie. D'un autre côté, on va voir dans la deuxième partie que Moïse, lui, est radical. Il va confronter ce leader qui a été propulsé et il va punir le peuple. Et enfin, voir que Moïse a intercédé en faveur du peuple, non pas une fois, mais deux fois. Aaron a été propulsé leader. Donc déjà, qu'est-ce que j'appelle leader ? Peut-être c'est déjà bien de définir quels sont les termes. Un leader, c'est quelqu'un qui a de l'influence et qui sert les autres. Un leader, c'est quelqu'un qui a de l'influence et qui va servir les autres. L'exemple parfait pour nous de leader, c'est Jésus-Christ. Il n'avait pas forcément de position dans la société, mais il avait une énorme influence, tellement une énorme influence qu'aujourd'hui encore, nous sommes appelés chrétiens, petit Christ. Et c'est que Jésus, il vivait pour servir les autres. Il n'est pas venu sur terre pour être servi, mais donner sa vie en rançon pour servir les gens. Jusqu'au point de mourir pour ceux qui croiraient en son nom. Donc je le répète, un leader, c'est quelqu'un qui a de l'influence et qui sert les autres. Donc le peuple doute et remet en cause Moïse. Il rejette Dieu à cause de l'attente trop longue, parce que Moïse, voilà, ça fait longtemps qu'il n'est pas redescendu de la montagne, 46 jours. Il fait preuve d'impatience. Il demande à Aaron de faire des dieux, comme si Aaron avait ce pouvoir de faire un dieu qui marche devant eux. C'est assez absurde quand on y pense. Lui qui n'est qu'une simple créature. Et nous ignorons ce qui a animé Aaron à ce moment-là. Mais nous pouvons faire une supposition, enfin trois suppositions. D'abord, c'est que Moïse, ça fait 46 jours qu'il n'est plus là. Donc c'est l'occasion ou jamais pour Aaron de devenir le leader du peuple. Et c'est vrai que Moïse, dans Exode 24, 14, il dit, bah, attendez-nous ici. Et Aaron et Hur, donc Hur, on ne le voit pas de tout le passage, on ne sait pas trop ce qu'il devient, mais Aaron et Hur vont rester avec vous. Et si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il devra s'adresser. Donc Moïse était OK que Aaron le remplace pour un temps. Deuxième supposition qu'on peut avoir, pourquoi est-ce que qu'est-ce qui a animé Aaron à ce moment-là ? Bah c'est lorsque le peuple se rassemble autour de Aaron pour lui faire cette demande, il a dû se dire s'il me demande un truc, je vais aller dans leur sens, parce que si je vais dans leur sens la première fois, les autres fois ils vont aussi me faire confiance. Donc peut-être que c'est comme ça qu'il a pensé. Il a cherché dans ce cas-là plutôt l'approbation du peuple que l'approbation de Dieu. Et enfin, troisièmement, il est possible qu'ils se soient sentis un peu obligés, parce que le texte nous dit qu'ils se sont rassemblés autour de lui et il n'avait pas d'autre choix que de dire oui, quoi. Sinon il allait peut-être se faire lapider. Voilà. Quoi qu'il en soit, il accède à leur demande. Il fait « Ok, je fabrique un veau d'or ». Donc le texte nous dit « Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte ». Pourtant, rappelez-vous, dans Exode 20, verset 23, c'est totalement le contraire, ils font vraiment le contraire de ce qui est demandé dans Exode 20. « Vous ne ferez pas des dieux en argent et en or », donc quelques passages avant, hein, « pour me les associer, en plus. » Donc dites surtout pas que c'est idoles en or, c'est moi. « Vous ne vous en ferez pas. » Voilà. Puis ils font des sacrifices, une grande fête, ils se réjouissent dans des repas, des boissons, sans se rendre compte qu'ils sont en train de pécher. C'est vrai que la Bible nous parle de réjouissances qui se font avec la volonté de Dieu. Et dans ce cas-là, Dieu les bénit. Il y a beaucoup de fêtes chez les Juifs notamment. Mais ici, toute l'attention est dévouée à une idole. Ils sont vraiment totalement dans l'erreur, dans le péché. Et le pire, c'est qu'ils l'ignorent. Ils ignorent cela. Alors peut-être une application pour nous, c'est bien sûr, nous ne construisons pas des veaux d'or aujourd'hui. Mais nous avons tendance à remplacer Dieu peut-être par autre chose, par d'autres choses au pluriel, et ce sont ce que nous appelons des idoles. Une bonne chose peut devenir une idole, selon l'importance que nous y accordons. Cela peut être une activité, un but dans notre vie, mais ce qui est mauvais, c'est que cette chose prend la place de Dieu, c'est-à-dire la première place de Dieu. Je vous rappelle, une bonne chose peut devenir une idole selon l'importance que nous lui accordons. Il suffit dans ce cas-là de sonder notre cœur et de nous demander « Est-ce que j'ai donné la priorité à Dieu durant ma semaine ? Est-ce que j'ai peut-être priorisé d'autres choses ? Est-ce que dans mes pensées, j'ai vécu ma semaine comme s'il n'y avait pas Dieu ?» Plus nous passons du temps sur cette chose, et plus finalement nous voyons l'importance qu'elle a pour nous. Notre travail peut devenir notre idole, mais aussi notre smartphone, Netflix, RMC Sport, nos enfants, notre famille, toutes ces choses qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, peuvent devenir notre idole. Et bien sûr, nous pensons à Dieu pendant la prière, peut-être une prière un peu mécanique qu'on fait avant chaque repas, pendant le groupe de maison, pendant le groupe de prière chaque semaine. Et si vous n'avez pas de groupe, je vous invite à voir Sylvie qui va vous répartir en groupe. Pendant le groupe de prière du samedi matin ou pendant le culte du dimanche. Mais en dehors de cela, est-ce que nous pensons vraiment à Dieu? Comme l'a dit Philippe dimanche dernier, ces idoles nous rendent esclaves. Ces idoles nous rendent esclaves, alors que Dieu veut nous rendre libres. Débarrassons-nous donc de ces idoles, et nous verrons plus tard l'exemple de Moïse, qui a su être radical, et nous allons voir des applications concrètes aussi pour nous tout à l'heure. Mais revenons sur Aaron. Il est dans un profond aveuglement spirituel, et très facilement influençable. Non seulement il obéit aux demandes du peuple qui sont mauvaises, mais en plus, il va plus loin en faisant construire un autel et en même temps en proposant de faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc il est en train de dire que le veau d'or, c'est l'Éternel. Incroyable. Pourtant, plus que quiconque après Moïse, il devait savoir à quel point l'Éternel était un Dieu jaloux, saint, pur, qui ne tolère aucun rival. Il avait vu lui-même agir parce que lui, il était le porte-parole de Moïse. Vous savez que quand Moïse disait « je n'ai pas la parole facile », eh bien Aaron a été envoyé pour l'aider. Et il était porte-parole de Moïse durant l'épisode des 10 fléaux auprès de Pharaon. Mais ici, il est un mauvais leader. Il a totalement enfreint le premier, le deuxième et puis même le troisième commandement d'Exode 20, versets 3 à 7. Et Pasteur Philippe avait insisté sur ces commandements dimanche dernier. Parce que Dieu veut l'exclusivité de la part de son peuple. Il veut une adoration qui soit unique. Et nous allons voir ces trois commandements. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, verset 3. Deuxième commandement, tu ne feras pas de sculpture sacrée. Et le troisième commandement, verset 7, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère. Comme application pour nous, comme Aaron, peut-être sous la pression des autres, est-ce que parfois nous ne cédons pas à la pression des autres lorsqu'ils nous demandent quelque chose? Peut-être c'est qu'il y a un membre de votre famille qui vous dit « est-ce que tu peux me faire ça ?» Et en fait, on n'a pas réfléchi. Est-ce que ça allait à l'encontre de la volonté de Dieu? Peut-être est-ce que c'était un péché? Et on a dit « ouais, ok, pas de souci, je le fais. » Ou est-ce que peut-être un de nos supérieurs, un de nos hiérarchies dans notre travail nous dit « Clément, est-ce que tu peux me faire ça ?» Ou « Machin, est-ce que tu peux me faire ça ?» Et c'est peut-être pas réglo, et sur le moment, sous la pression, on a fait ok. Mais maintenant qu'on prend du recul, la prochaine fois que ça nous arrive, est-ce qu'on se dirait pas, je suis désolé, mais je peux pas le faire. Tu peux demander à quelqu'un d'autre, mais moi je peux pas. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas faire croire ça à quelqu'un. Je ne peux pas parce que c'est à l'encontre de mes convictions. Et après, vous pouvez dire que vous êtes chrétien, ça dépend du contexte, mais voilà. Donc, mini-conclusion par rapport à cette première partie. Eh bien, après cet horrible péché du veau d'or, on peut s'attendre au pire. La colère de Dieu risque de se déchaîner et d'éliminer le peuple de Dieu. Ce même peuple qui est issu de la lignée d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ce même peuple qui vient de la descendance de Noé, de la descendance de Seth, si on remonte encore plus loin, le troisième fils d'Adam après Abel et Caïn, le moment à partir duquel on fait appel à l'Éternel. Après aussi, ce même peuple qui vient de la promesse qui a été faite en Genèse 3, verset 15, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Donc on parle au c'est Dieu qui parle au serpent, à Satan. « Entre la descendance du serpent et la descendance de la femme, celle-ci, la descendance de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ce qu'on appelle le proto-évangile, c'est ce qui annonce la venue de Christ. Mais vous connaissez la suite de l'histoire. Moïse va intercéder pour le peuple auprès de l'Éternel, qui va accéder à sa demande. Mais avant d'aller à cet épisode, attardons-nous un instant sur l'attitude de Moïse face à ce péché terrible dans la prochaine partie. On voit dans cette deuxième partie que Moïse est radical avec le péché. Moïse est radical avec le péché. Il n'en croit pas ses oreilles. Raison pour laquelle, sur le moment, il semble perdre le contrôle et il casse les tables de la loi. Il entend d'abord des chants en descendant de la montagne. Il voit de ses propres yeux son peuple s'adonner au péché avec ses danses. Mais il voit surtout le veau d'or. Et son premier réflexe, on l'a vu, c'est de se saisir du veau d'or, le brûler au feu, le réduire en poudre verser cette poudre dans l'eau et la faire boire aux Israélites. Et en tout cas, quand j'ai lu plusieurs fois ce texte, je ne m'étais jamais rendu compte qu'il avait carrément fait boire de l'eau mélangée avec du souillé, avec du métal, avec de l'or, et qu'il a forcé les Israélites à boire. Enfin, souvent, quand on raconte cette histoire, on n'insiste pas trop sur ce passage, donc ça m'avait beaucoup frappé. Et ce que fait Moïse ici par colère peut sembler bien sévère, mais cette colère, elle est juste, elle est justifiée. Dieu lui-même fait preuve d'une colère qui est juste face au péché et aux pécheurs. Et on voit ça dans Romains 1, verset 18, qui dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Et en fait, face à l'idolâtrie, face aux idoles, face au péché, il n'y a pas de tergiversation à voir. Il ne faut pas hésiter. Il faut agir de manière radicale. C'est un peu ce qu'a fait Jésus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage dans Jean 2, versets 13 à 17, où on voit des marchands qui sont en train de vendre des pigeons ou quoi pour les offrandes. Et qu'est-ce que fait Jésus ? Il renverse la table, il renverse tout. Parce qu'il a fait un fouet aussi, et il a chassé tout ça. Il était radical. Parce qu'il disait qu'il n'y avait pas de place pour les idoles. Et je vais en profiter pour boire aussi. Il n'y a pas de place pour les idoles. Il faut savoir être radical. Et c'est ce que fait Moïse. Hein. Il n'a pas renversé la table, mais il a carrément renversé le veau d'or. Et ce veau d'or qui a fait chuter le peuple. Donc, il faut le détruire. Donc, si je reviens sur mon petite application de tout à l'heure, nous aussi, sachons être radical avec les idoles. Et je pense à ce passage d'un certain Jésus, encore, qui a dit dans un sermon sur une montagne, alors encore un autre commandement sur une autre montagne, quelques années plus tard quand même, hein, dans Matthieu 5, verset 29, qui dit « Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. » Alors, je rappelle que ce commandement n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais qui parle ici de radicalité. Et je vais vous donner quelques exemples. Ce n'est pas du tout exhaustif, ça dépend aussi de tous les péchés qu'il peut y avoir, mais qui peuvent nous aider à nous débarrasser de notre idole de manière concrète. Par exemple, si notre idole, c'est le smartphone, débarrassons-nous de ce smartphone. Non, je rigole. On en a peut-être besoin pour certains pour vivre, mais au moins un jeûne de smartphone, ça peut être une solution. De dire, ok, j'utilise juste ce matin pour mettre mon réveil, mais sinon, à part ça, je n'utilise pas de la journée. J'ai un téléphone portable professionnel, peut-être, et je suis joignable par le travail. Mais voilà, un jeûne de smartphone, c'est quelque chose de radical, par exemple. Si je suis accro à la pornographie, un jeûne d'écran peut être efficace. Plutôt que d'installer, on peut installer des choses qui bloquent, etc. Mais finalement, si on n'est pas avec des écrans, on est moins tenté quand même. Voilà. Et si, par exemple, notre idole, c'est l'argent, alors c'est plus compliqué, on ne peut pas dire on vit sans argent. Mais déjà, je pense qu'on pourrait écouter des enseignements sur l'argent, sur la gestion de l'argent. On pourrait lire un livre chrétien sur l'argent. Il y a des super livres qui existent sur le principe du trésor de Randy Alcorn, pour ceux qui connaissent, un tout petit bouquin d'une centaine de pages, mais qui est hyper intéressant dans ce sens. Et on pourrait aussi prendre un engagement pour revoir nos priorités, parce que Jésus disait lui-même qu'on ne peut pas choisir deux maîtres, c'est forcément soit Dieu, soit l'argent. Toutefois, souvenons-nous aussi que lorsque Dieu n'est plus présent dans nos pensées, nous tombons aussi facilement dans l'idolâtrie. C'est pas juste dire, je mets de côté des choses, mais c'est aussi dans les pensées. Et ça, c'est une mise en garde qui est très claire. Donc, je nous invite aussi à être remplis dans nos pensées continuellement de Dieu par son Saint-Esprit et être remplis de tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, synonyme de qualité morale, selon Philippiens 2, verset 8. Occupons nos pensées, saturons nos pensées de Christ. Ensuite, nous allons voir que Moïse confronte Aaron. Moïse semble très déçu de l'attitude coupable de son propre frère. Vous imaginez, votre propre frère, c'est comme si Laurent, je lui laisse le leadership et qui vient prêcher et qui fait n'importe quoi. Eh bien, que t'a fait ce peuple pour que tu te rendes coupable d'un si grand péché ? Mais avant de voir la suite, faisons à nouveau un focus sur la personne de Aaron. Aaron, on voit qu'il cède à la pression du peuple. Il ne consulte pas Dieu. Il aurait pu, hein, mais il ne consulte pas Dieu. Il se défend en accusant le peuple, alors qu'il est un peu quand même responsable de tout ce qui se passe. Il déforme les faits. Il dit, il en est sorti un veau, comme si ce veau était arrivé un peu tout seul. Donc, c'est assez bizarre. Alors que le texte nous dit quand même clairement, il en a fait un veau. Donc, de plus, Aaron, on voit qu'il agit un peu comme Adam, vous savez, Adam et Ève, quand ils ont péché et qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu. Eh bien, Adam, il dit, ah, c'est pas ma faute, c'est sa faute. Et là, Aaron dit, bah, c'est pas ma faute, c'est la faute du peuple. Il n'y a pas une seule fois où il y a de la repentance. Il ne reconnaît pas son propre péché. Il craint plus pour sa vie dans l'immédiat en demandant à son frère de ne pas se mettre en colère. Et c'est dommage. Parce que Aaron ici, c'est le contre-exemple d'un bon leader. Un bon leader, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui sait influencer dans le bon sens. C'est quelqu'un qui sait servir. Mais ici, il a influencé le peuple dans le mauvais sens. Il a provoqué sa perte en l'incitant à pécher. Mais au contraire, de l'autre côté, on a l'exemple qui est Moïse. Moïse qui était proche de Dieu, il a été appelé ami de Dieu plus tard dans Exode 33, donc juste après. Hein. Il sait se positionner contre tout le peuple. Et ce n'est pas la première fois que Moïse va se positionner contre tout le peuple, et ce ne sera pas la dernière non plus, parce que Moïse, il sait être radical face au peuple. Et une application pour nous, c'est que ce n'est jamais agréable pour nous d'aller confronter quelqu'un en face à face. Et là, on parle de confronter un frère, parce que je vous rappelle que Aaron, c'était le frère de sang, mais c'était aussi, il faisait partie du peuple de Dieu. Hein. Et c'est jamais agréable pour chacun d'entre nous d'aller confronter un frère ou une sœur. Et pourtant, c'est notre devoir, parce que la Bible nous y encourage. On a l'exemple ici de Moïse, mais on a d'autres exemples de Jésus, par exemple dans Matthieu 18, verset 15, qui dit que « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » On a un autre passage qui ressemble beaucoup dans Jacques 5, verset 19 à 20. « Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. » Ainsi, on voit qu'ici que la discipline est un moyen de grâce. La discipline est un moyen de grâce pour pouvoir ramener le pécheur à la repentance et qu'il puisse être pardonné de ses péchés. Troisième chose, encore dans cette deuxième partie, c'est qu'on voit que Moïse punit le peuple. Donc Moïse, il a été radical, ensuite il a confronté Aaron, et là il punit le peuple. Il voit le désordre dans lequel est le peuple, et surtout le verset 25 qui dit que le peuple est exposé au déshonneur parmi ses ennemis, donc on s'imagine quand même que les ennemis, ils ont des éclaireurs, ils savent un peu ce qui se passe, et ils disent « Oula, c'est un peu la fête, mais on ne sait pas trop... » Enfin, ils peuvent même se moquer en se disant « Mais c'est le peuple de Dieu, ça ? Incroyable !» Et là figure une scène qui peut nous paraître très violente. Pareil, peut-être que ce n'est pas dans la Bible pour enfants, si vous avez une Bible pour enfants. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu dans la Bible pour enfants de Théa. Moïse demande aux fidèles à l'Éternel de se rallier à lui. Et là, on voit que tous les fidèles, ce sont tous les Lévites, qui se tiennent à ses côtés et qui exécutent ses ordres. Ils doivent tuer ceux qu'ils vont rencontrer. Et on voit qu'il y a 3000 hommes qui meurent ce jour-là. Et il semble que les Lévites soient les seuls à ne pas s'être corrompus, à ne pas être allés adorer le veau d'or. Et moi, ça me fait penser à une autre histoire de personnes qui ne sont pas corrompues, qui ne se sont pas agenouillées devant une idole. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si je vous parle d'Élie. Dans 1 Roi 19 à 18, Élie se réfugie dans une grotte et finalement Dieu va lui parler à travers un souffle. Et Élie pense qu'à ce moment-là, parce qu'il a fui Jézabel, il a fait tuer tous les prophètes de Baal et Jézabel qui était la reine d'Israël. Et Élie, il se dit, mais je vais mourir, je suis le seul qui est fidèle, je suis seul au monde. Et en fait, Dieu lui dit, mais pas du tout. Il y a encore en Israël 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Et ça me fait vraiment penser à ça, c'est que ces Lévites-là, on n'en parle pas trop, mais là on voit que ces Lévites, ils sortent du lot, ils ne se sont pas inclinés devant l'idole. Et on voit ici donc qu'il y a toujours, malgré tous les péchés, il y aura toujours un reste, qui sera fidèle dans le peuple d'Israël. Et c'est ce qu'on voit dans tout l'Ancien Testament, il y a toujours un reste qui est fidèle, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Quand on regarde, par exemple, au temps de Jésus, peu de personnes étaient des véritables disciples de Jésus. quand il prêche sur le pain de vie, eh bien, il y a une foule qui le suit, et puis il explique qu'il faut qu'il mange de son corps, et comprenne qu'il faut qu'il soit vraiment radicaux et qu'il suive son enseignement. Et bien là, on voit que tous l'abandonnent, sauf les 12 disciples. Donc voilà, il y a un tri qui s'est fait durant le ministère de Jésus, où on sait qu'il y a Nicodème et Joseph, donc qui sont deux pharisiens, mais tous les autres pharisiens, non. Il y a eu deux pharisiens parmi tous les pharisiens qui ont cru en Jésus. Il y a Zachée, il y a les 11 apôtres, les quelques femmes aussi qu'on voit, notamment jusqu'à la croix et après la résurrection, et plein d'autres, mais pas tant que ça finalement. Et quand on compare ce petit reste par rapport à la foule de juifs, les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, et finalement, pour qu'aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui, c'est ce reste fidèle du peuple d'Israël auquel sont greffés tous les croyants qui sont non-juifs. Et si vous voulez aller plus loin dans cette réflexion, je vous invite à lire Romains 9 à Romains 11 qui parle bien de cela. Moïse représente Dieu auprès des Israélites dans cette punition. Il l'accomplit en exerçant le jugement de Dieu par l'épée. En effet, il ne laisse pas le péché impuni à l'image de Dieu. Et ça me fait penser à Proverbe 11, 21 qui dit « C'est certain, le méchant ne restera pas impuni, tandis que la descendance des justes sera sauvée. » Comme mini-conclusion pour cette partie 2, nous venons de voir que Moïse est radical face au péché, qu'il est prêt à éliminer le veau d'or. Il va confronter le leader du peuple à son absence, c'est-à-dire son propre frère Aaron, et il va punir le peuple en faisant appel à ceux qui sont fidèles à l'Éternel, c'est-à-dire les Lévites. Mais nous allons voir maintenant, pour terminer, une troisième partie dans laquelle on voit une autre facette de Moïse, c'est son amour pour le peuple d'Israël. L'amour de Moïse pour le peuple d'Israël. Dans la partie 3, on voit que Moïse intercède en faveur du peuple. Il intercède deux fois. La première fois, c'est pour empêcher Dieu d'exterminer le peuple d'Israël. Donc c'est avant qu'il descende et qu'il voit de ses propres yeux ce qui se passe, donc versets 7 à 14. Et puis la deuxième fois, c'est pour obtenir le pardon de Dieu envers le peuple d'Israël, après coup, une fois qu'il a exercé le jugement de Dieu. Donc la première intercession de Moïse, versets 7 à 14. Donc Dieu est saint, il est à part, on l'a déjà dit, il ne tolère pas de rivalité, il est juste, il ne tolère pas le péché. Il dit, laisse-moi Moïse, je vais aller punir le peuple dans le feu de ma colère et je vais les faire disparaître. Et je vais faire de toi, Moïse, une grande nation. Donc là, Dieu il est en train de révéler son plan à Moïse en lui proposant de tout recommencer, de faire table rase, un peu comme avec Noé. Vous savez, avec la famille de Noé, Dieu a fait table rase de tout le monde, sauf que là, c'est pas de tuer tout le monde, c'est d'exterminer, on va dire, le peuple d'Israël et de dire, on va tout recommencer à partir de la famille de Moïse. Pourquoi ? Parce que le péché d'infidélité est extrêmement grave. Le péché d'infidélité envers Dieu est extrêmement grave et Dieu le prend très au sérieux. C'est la raison pour laquelle il menace de détruire le peuple. Mais quelque part, je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu dit ça à Moïse ? Pourquoi est-ce qu'il en parle ? C'est un peu comme si, je pense, si Dieu il est en train de tester Moïse. Moïse, tu sais que je suis juste et saint et je vais te révéler ce que je vais faire et je te propose de tout effacer, de tout recommencer avec toi. Laisse-moi faire, le verset 10. C'est marrant parce que c'est un peu comme si Dieu était en train de dire, mais enfin, c'est un peu comme si d'un point de vue de la force, Moïse pouvait l'empêcher de faire quoi que ce soit. Alors qu'on sait très bien que l'Éternel est Dieu et que rien ne peut, enfin, on peut rien lui empêcher de faire quoi. Donc, s'il veut faire quelque chose, la chose arrive quoi. Donc, mais ici, Dieu, il permet dans sa grâce, il donne une porte ouverte, il donne la permission à Moïse de le laisser faire ou de ne pas le laisser faire. Et c'est parce que Dieu a décidé qu'il lui dit cela. Et non pas que Moïse a quelconque pouvoir magique pour le faire infléchir sa position. C'est Dieu qui pense à une solution, malgré cela. Donc Moïse ne pense pas du tout à lui-même, et on voit qu'il aime le peuple, et il ne veut pas qu'il soit détruit, il intercède auprès de Dieu. Encore une fois, je ne sais pas si ça vous rappelle une histoire de l'Ancien Testament, où il y a un homme de Dieu qui intercède pour pas que Dieu détruise la ville. Abraham, tout à fait. Abraham, dans Genèse 18, qui intercède pour Sodome, alors, pas juste parce qu'il aime la ville de Sodome, mais parce que son neveu Lot est là-bas et qu'il veut pas que... Enfin, il aimerait que Dieu ne détruise pas toute la ville, y compris son neveu. Et finalement, il négocie avec Dieu en intercédant, et puis à un moment donné, il obtient le chiffre de 10, donc il a baissé, je ne sais plus de combien, mais à 10, Et Dieu dit, ok, s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Malheureusement, il n'y a pas 10 justes, il y en a moins. Donc on a vu que le péché d'infidélité est extrêmement grave. Et l'intercession de Moïse, elle est conduite vraiment avec sagesse pour que Dieu ne fasse pas disparaître ce peuple. Il y a deux arguments. Le premier, c'est la réputation de Dieu. C'est la gloire de Dieu, la gloire de son nom qui pourrait être atténuée auprès des autres peuples, qui pourrait se vanter du fait que Dieu n'est pas si puissant que ça. Dieu a soi-disant fait sortir son peuple d'Égypte, mais finalement, c'est pour le laisser mourir sur la montagne. Et ça, c'est quelque chose qui, c'est une interprétation qui pourrait les arranger. Deuxième argument, Seigneur, souviens-toi de la promesse qui a été faite au patriarche. Et vous savez que Dieu ne revient pas sur ses promesses. Quand il accorde une promesse, il ne revient pas dessus. Quand il accorde une bénédiction, il ne revient pas dessus. Abraham, Isaac et Jacob, ses patriarches, il avait promis qu'il y aurait une descendance nombreuse qui va occuper le pays qui a été donné par Dieu et qu'ils posséderont pour toujours. Et c'est cette même promesse qui est reprise par Moïse dans le verset 13. « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, « Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. » Et quelque part, Dieu se devait de se souvenir de cette promesse de ne pas détruire le peuple. Mais Dieu n'avait pas oublié. Dieu a permis à Moïse de le lui rappeler, mais Dieu, dans sa grâce, avait permis cette porte ouverte pour faire grâce à son peuple. Cette intercession, c'est un moyen qui est utilisé par Dieu à travers Moïse pour épargner son peuple dans sa grâce. Et Dieu y répond donc favorablement. La deuxième intercession de Moïse, versets 30 à 35, donc c'est la fin du passage. Moïse rappelle au peuple que vous avez commis un grand péché. Je vais essayer d'obtenir le pardon de Dieu pour vous. C'est intéressant, c'est qu'il ne fait pas de sacrifice. Il n'y avait pas encore des sacrifices, c'était encore avant le tabernacle. Donc il va intercéder. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre sa propre vie en gage. Il va dire au verset 31, « Ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait des dieux en or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface de ton livre que tu as écrit. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Donc quelque part, Moïse, il confesse le péché du peuple, mais ce n'est pas lui qui a péché, Moïse. Mais il va confesser en s'associant au péché du peuple, en disant, « Mais Seigneur, pardon pour le péché que nous avons commis. » Mais pardonne maintenant ce péché, sinon efface-moi de ton livre de vie. Et on voit que Dieu répond favorablement à cette requête et il l'incite à conduire le peuple en étant guidé par son ange. Et il dit que cependant, le jour où j'interviendrai de nouveau, je vais punir le peuple de son péché. Et cette menace, on va voir qu'elle reste sur le peuple. Selon le verset 35, l'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau, celui qui avait fabriqué Aaron. De plus, Dieu explique à Moïse qu'il n'a pas à mourir, lui, pour le péché du peuple, mais c'est chaque individu qui est responsable de son propre péché. Donc, comme mini-conclusion pour cette partie 3, on a vu que, dans la partie 2, Moïse pouvait sembler très dur, très radical, trop radical. En fait, la radicalité qu'on pourrait dire, c'est qu'il était juste en train d'exercer la justice de Dieu, il était juste en train d'obéir à Dieu. Et ici, dans la partie 3, nous voyons le souci de Moïse pour la gloire de Dieu, la réputation de Dieu, ainsi que l'amour de Moïse pour le peuple de Dieu. Il aurait pu se dire, on va tout recommencer avec moi, ok, comme Noé, et puis tant pis pour les autres, de toute façon, ils sont relous, ils sont nuls, j'en peux plus. Non, Moïse, par amour pour le peuple, il a dit, ok, pardonne-leur et prends ma vie plutôt que de les détruire. Moïse, il meurt à lui-même en mettant le peuple d'Israël au-dessus de lui, afin que le peuple ait la vie sauve. En effet, il savait que le plan de Dieu dépassait sa propre personne. Il est vraiment le médiateur entre Dieu et son peuple. Un autre médiateur, c'est Christ, parce qu'il préfigure finalement Christ qui est ce médiateur, Jésus-Christ qui est mort, afin que nous, en tant que chrétiens, le peuple de Dieu, nous ayons aussi la vie éternelle, selon Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Moïse s'est fait aussi l'avocat du peuple. Il a plaidé sa cause pour qu'il soit gracié. Et Christ, on voit aussi qu'il est notre avocat auprès du Père. Et on voit que si quelqu'un a péché, 1 Jean 2, verset 1, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et c'est aussi grâce à cette intercession de Moïse que l'espérance est encore possible, que la lignée de Christ, elle est préservée. Parce qu'il y a ces promesses qui étaient faites depuis le proto-évangile, depuis Genèse 3, verset 15, de la descendance de la femme qui va écraser la tête du serpent jusqu'à là. Et à ce moment-là, je rappelle, on est dans Exode, on est vraiment encore au début, on sait, la seule chose qu'on sait, c'est que la lignée de Christ devait venir de Juda. C'est ce qu'on voit dans Genèse 49, versets 8 à 12. Et ce passage, je pense que vous vous en souvenez un peu, ce sont les derniers mots de Jacob, les dernières bénédictions ou malédictions selon les fils, qu'il fait avant de mourir. Et pour Juda, eh bien, on va lire le passage. On va insister sur donc, Juda, tes frères chanteront tes louanges, tu forceras tes ennemis à courber la nuque et tes propres frères s'inclineront devant toi. Juda, mon fils, tu es comme un jeune lion qui a dévoré sa proie et regagne son repère. Le lion s'accroupit, se couche. Qui pourrait le forcer à se lever ? Donc, lion de Juda, hein, ça vient aussi de là. Et le verset très important, c'est le verset 10. Le sceptre royal demeurera dans la famille de Juda. Le bâton des chefs restera aux mains de ses descendants jusqu'à ce que vienne son vrai possesseur, le possesseur du bâton, celui à qui les peuples sont soumis. Et là, c'est la promesse qui avait été faite par rapport au Messie qui devait venir de Juda. Voilà. Comme application pour nous aujourd'hui, eh bien, on sait que Moïse était le médiateur entre Dieu et le peuple d'Israël. Et Jésus lui-même est le médiateur entre Dieu et son peuple, c'est-à-dire son Église aujourd'hui. Moïse intercédait à l'époque et Jésus intercède pour nous aujourd'hui. On voit ça dans Romains 8, verset 34. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il était à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Hébreux 7, 25. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus reste donc l'unique médiateur. Il n'y a pas d'autre médiateur. Et peut-être que certains d'entre vous avez des amis qui sont catholiques, chez les catholiques, eh bien, ils ont des médiateurs, par exemple, la vénération de Marie, pour parler à Dieu, ils passent par Marie, ou passer par les saints, qui ont chacun un rôle spécifique, ou par le prêtre, pour confesser leurs péchés. Mais nous, en tant que chrétiens évangéliques, en tant que chrétiens tout court, parce qu'on ne s'appuie que sur la Bible, nous n'avons pas besoin d'autres intermédiaires, pas besoin d'autres médiateurs que Jésus-Christ. Notre application, c'est que nous pouvons avoir l'assurance du salut. Chaque fois que nous péchons, même pour un péché d'infidélité envers Dieu, comme le peuple qu'on a vu ici, nous ne risquons pas d'être détruits comme le peuple d'Israël dans Exode 32. En effet, le pardon sera toujours d'actualité pour le chrétien à chaque fois que nous allons revenir nous repentir tant que nous aurons Christ, notre médiateur. Et on voit dans 1 Jean 1, verset 9, que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de tout mal. Donc à chaque fois que nous péchons, alors ce n'est pas que c'est une excuse pour pécher, mais c'est qu'à chaque fois que nous péchons, nous pouvons revenir à Dieu parce qu'il y a encore Jésus qui intercède pour nous dans le ciel. Et cette notion de Jésus qui intercède pour nous dans le ciel, je vous invite à vraiment vous focaliser sur ça. Et si ça se trouve, c'est peut-être la seule chose que vous devez garder aujourd'hui de la prédication, c'est que Jésus aujourd'hui dans le ciel, ok, il s'est sacrifié, ok, il est ressuscité, mais ce pourquoi nous sommes encore sauvés aujourd'hui, ce pourquoi nous tenons bon, c'est parce que Jésus-Christ lui-même intercède pour nous. Et ça réchauffe vraiment notre cœur, je pense. Il nous faut conclure. Nous avons vu la différence entre les deux leaders, Aaron et Moïse. On a vu que Aaron, il était tombé dans l'idolâtrie, qu'il était peut-être, il a voulu être leader à la place du leader. Moïse, lui, de son côté, était radical. Il a confronté Aaron, il a puni le peuple. Et Moïse, ensuite, n'a pas seulement été juste, mais il a été aussi rempli d'amour. Il a intercédé en faveur du peuple comme un médiateur. Mais nous savons aujourd'hui que nous avons le meilleur médiateur qui soit, c'est Jésus-Christ. Et quel leader est-ce que nous sommes aujourd'hui ? Est-ce que nous sommes comme Aaron ? Est-ce que nous sommes comme Moïse ? Est-ce que nous sommes encore dans l'idolâtrie ? Ou est-ce que nous sommes peut-être influencés par d'autres ? Et dans ce cas-là, demandons à Dieu, avec foi, la sagesse. Et il nous donnera cette sagesse pour faire de nous des leaders à l'image de Moïse et surtout à l'image de Christ. Et pour finir, je vous invite à lire ensemble le psaume 16 et à prier sur cette base-là. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit est dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Je vous invite à prier. Seigneur mon Dieu, merci parce qu'il y a d'abondantes joies dans ta présence, un délice éternel à ta droite, Seigneur. Merci parce que même si parfois, Seigneur, nous avons tendance à nous orienter vers des idoles, Seigneur, aujourd'hui nous avons encore Christ, notre médiateur, celui qui a payé pour nous, Seigneur, celui qui nous a ouvert le chemin vers la vie éternelle. Et Seigneur, trop souvent, Seigneur, nous avons emprunté le chemin large qui mène à la perdition, Seigneur. Mais Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, je vous invite à revenir vers ce chemin étroit, Seigneur, ce chemin de sanctification, ce chemin où tu nous appelles à vivre cette vie pas facile, Seigneur, mais cette vie où tu es avec nous, parce que tu as promis que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci encore pour l'exemple de Aaron, qui est un contre-exemple, mais également merci pour l'exemple de Moïse, Seigneur, qui, on a vu qu'il a rattrapé les choses. Et Seigneur, merci parce que par rapport à notre péché, tu as rattrapé les choses avec Christ, qui est mort pour nous. Seigneur, merci encore pour la croix. Merci, Seigneur, pour la croix. Merci, Seigneur, pour la croix. Parce que à la croix, Seigneur, tu as tout accompli, Seigneur. Et à la croix, tu nous as délivrés, Seigneur. Seigneur, si encore aujourd'hui, Seigneur, nous sommes encore esclaves de certaines addictions, Seigneur, de certaines idoles, Seigneur, je te prie, mon Dieu, qu'au nom de Jésus, Seigneur, nous puissions être délivrés, Seigneur, parce que tu veux la délivrance de ton peuple, Seigneur. Pas juste délivrer de la mort éternelle, mais être délivré du péché, Seigneur. Et Seigneur, encore aujourd'hui, je crois que cela est possible, Seigneur. Et Seigneur, c'est ma prière pour chacun d'entre nous, moi y compris, Seigneur, encore aujourd'hui. Et je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.